chantait que Jésus est au milieu de nous, et on le croit. L'avez-vous entendu ? Il n'a pas fait de bruit. Et pourtant, on a aussi chanté qu'il fallait laisser rentrer le roi de gloire, psaume 24, on va le lire tout à l'heure. C'est le roi des rois, le roi de gloire. Vous avez probablement entendu l'histoire du Seigneur, et peut-être avez-vous déjà une vague connaissance de ce qui est dit concernant Jésus-Christ. Et ce qu'on lit dans le Nouveau Testament, c'est que Jésus est venu une première fois et il reviendra une deuxième fois. La première venue de Jésus, je dirais, c'est une venue à pas de velours. Il est venu sans faire de bruit. Et c'est biblique ce que je vous dis. On va déjà lire quelques versets dans le prophète Ésaïe. On va lire deux références dans Ésaïe pour introduire cette notion. Ésaïe, chapitre 53, les deux premiers versets. On y trouve des questions et aussi une prophétie. Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? Il est question d'une annonce. Un roi, quand il se déplace, il est toujours annoncé. Toujours. Et il y en a qui le précèdent et qui précèdent son arrivée. Il y a des annonces. Attention, le roi arrive. Ici, là encore, il est question d'une annonce et une question est posée. Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé ? On va le voir, il s'est révélé au petit. Il s'est élevé devant lui comme un rejeton. Pour votre information, Nazareth a la même origine. C'est pour cela même qu'on peut lire cette parole quand il est question de sa naissance, qu'il accomplit une prophétie en venant de Nazareth, parce qu'il est aussi le rejeton. Nazareth, c'est ça que ça voulait dire. Comme une racine qui sort d'une terre assoiffée, il n'avait ni apparence, ni éclat pour que nous le regardions. Pourtant, lui, il est la lumière. Et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Une deuxième référence dans Ésaïe, chapitre 42, les deux premiers versets également. C'est Dieu qui parle et qui dit « Voici mon serviteur auquel je tiens fermement, mon élu en qui mon âme se complaît, j'ai mis mon esprit sur lui, il révélera le droit aux nations. » Et regardez bien ce verset, « Il ne criera pas, il n'élèvera pas la voix et ne la fera pas entendre dans les rues. » Il est venu sans faire de bruit, à pas de velours. Et cette première venue, c'était voulu de Dieu, bien sûr, qu'il arrive comme ça, en toute discrétion. Il est venu incognito. Et seuls ceux qui le cherchaient vraiment ont pu le voir, ont pu le reconnaître. Lors de sa naissance, on ne va pas lire ces passages, je vous les cite pour que vous puissiez y réfléchir après, mais dans le deuxième chapitre de l'évangile de Matthieu, on a une histoire avec les mages. Les mages viennent d'Orient, ils viennent de très loin, et eux attendaient l'arrivée d'un roi dans le pays des Juifs. Ils attendaient le roi des Juifs. Et les mages, qui sont des étrangers, ils vont être tout décontenancés quand ils vont arriver à Jérusalem. Parce qu'ils vont constater, avec une grande surprise, j'imagine, que personne n'est au courant de la naissance d'un royal baby en Israël. Personne était au courant de cette naissance. Un roi va naître. Et quand un roi naît, je pense qu'il est de bon ton d'aller dans un palais royal pour aller voir le fils du roi. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est ce qu'ils ont fait. Ils sont allés dans le palais d'Hérode et puis ils ont posé la question. Il est où le roi des Juifs, qu'on puisse venir adorer ? Et là, consternation, Hérode n'est pas au courant. Et bien plus encore, il se pose de grandes questions. Son trouble a été un grand trouble, au point que ce qui est écrit dans le mot « troublé » dans le texte, on le retrouve à chaque fois suite à une révélation divine. Et Hérode a été troublé, vraiment, ça venait de Dieu. Mais toute la ville de Jérusalem a même été troublée, parce que personne ne s'y attendait. Quand on voit tout ce qui a eu lieu à la naissance du prince Georges, par exemple, c'était une affaire d'État. Tout le monde attendait ce bébé. Et il était plus qu'attendu. Jésus, ça n'avait rien à voir, parce que personne n'était au courant. Et les Juifs ne l'ont même pas vu. Quelle surprise! Et pourtant, les mages, à l'écoute de ce que disent Hérode et les Juifs, ils vont persévérer, ils vont continuer à chercher, et ils vont s'apercevoir qu'ils n'étaient pas à l'endroit où ils attendaient, mais ils l'ont trouvé dans un endroit assez improbable, dans une étable. Et pourtant, c'était bien le roi, c'était bien le roi des Juifs. Mais il est venu sans que personne ne le sache. Il est né dans une famille très humble, très pauvre même, je pense. Il n'était pas bien riche. Et il va grandir dans ce village de Nazareth, qui veut dire rejeton. Il a été rejeté. Quand on lit Luc 2, on voit autre chose. Le roi est annoncé en grande pompe cette fois, mais à des petits bergers, à des humbles bergers. Du coup, malheureusement, la voix des bergers n'a certainement pas été entendue. Et finalement, malgré cette annonce, eh bien, personne n'a cru à l'arrivée d'un roi en Israël. On pourrait trouver beaucoup de passages qui nous parlent ainsi de cet aspect discret de cette venue de Jésus. Et j'en ai parlé dernièrement jeudi. Avant, j'aimerais qu'on lise quelques... On est dans Ésaïe, on va rester dans Ésaïe. Chapitre 40, on remonte encore deux pages. Et on a ce texte qu'on cite souvent, qu'on connaît bien, qui est l'annonce d'un roi en approche. Verset 3. « Une voix crie dans le désert. Ouvrez le chemin de l'Éternel, nivelez dans la steppe une route pour notre Dieu. » C'est l'image du char, de toute la cavalerie du roi qui arrive. Et pour qu'à l'époque, il puisse faire route, il fallait préparer la route juste avant. Il fallait annoncer son arrivée. Et on annonçait son arrivée déjà en préparant la route. On le voit bien, même quand le président se déplace, il y a beaucoup de monde qui est au courant, parce qu'il ne peut pas se déplacer incognito. Le Seigneur, eh bien, il en est de même. Et c'est bien un roi. C'est même un roi de gloire. Psaume 24, et vous verrez que le chant qu'on a chanté tout à l'heure, c'est bien écrit comme cela, en parlant du Seigneur Jésus. C'est un psaume, quelque part, qui accueille le roi. C'est un psaume qui annonce l'arrivée du roi. Et au verset 7, on lit ces paroles. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portail éternel, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, le fort et le héros. L'Éternel, le héros de la guerre. Le roi de gloire. Et pourtant, quand il est venu, ce roi de gloire, il est venu en toute discrétion. Regardez, justement, si vous regardez juste Marc 10, sans lire les textes, vous allez peut-être les différentes histoires qui sont dans les évangiles, juste en regardant les titres, vous verrez, c'est suffisamment parlant. Marc, chapitre 10. Donc c'est à la fin du chapitre, juste avant le chapitre 11. Vous me direz, la palisse l'aurait dit. Juste avant le chapitre 11, qui est l'entrée de Jésus dans la capitale, à dos de mule, comme le ferait un roi à l'époque, eh bien, on a son annonce. On a son annonce juste avant. Mais qui l'annonce? Un pauvre homme aveugle. Que personne ne va croire, qui s'appelle Bartimée. Lui, qui n'y voyait rien, qui était aveugle, il entend, on lui dit, voilà, Jésus de Nazareth vient. Et il corrige tout le monde. Il dit, non, c'est pas Jésus de Nazareth, c'est le fils de David. Et quand il l'appelle fils de David. Le roi est bien annoncé, mais en toute discrétion. il fallait que ceux qui cherchent Dieu aient l'oreille suffisamment attentive pour voir dans ces petites choses. Elles étaient là. Elles étaient là, mais comme cachées, comme avec un voile. Le grand roi de gloire, c'est un aveugle qui l'annonce. Mais il est annoncé. Il est bien annoncé. C'est bien Jésus, le roi de gloire, qui va rentrer dans Jérusalem. Et alors qu'il est dans Jérusalem, dans le temple, qui d'autre va annoncer le roi dans le temple ? Matthieu chapitre 21, c'est intéressant à lire. Matthieu 21, verset 15. Parce que les pharisiens, ça leur posait un problème. Jésus vient de faire le ménage dans le temple. Et au verset 15 du chapitre 21 de Matthieu, qu'est-ce qu'on lit ? Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des merveilles qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple « Hosanna, au fils de David !» Les enfants l'avaient reconnu et les pharisiens étaient indignés. Eux ne l'avaient pas reconnu. Eux qui guidaient les autres, eux qui enseignaient les autres, ils n'avaient pas reconnu le Seigneur. Ils n'avaient pas reconnu le roi, alors que des enfants criaient « Hosanna, au fils de David ». Il était là, il était annoncé, mais il fallait dans son cœur avoir une certaine disposition pour pouvoir voir dans ces petites choses qu'il était bien question du roi des rois. Il était bien question du roi de gloire. Le Seigneur, quand il est mort sur la croix, parce qu'il portait les péchés du monde, parce qu'il est pour cela qu'il est venu sur la terre une première fois, il est venu pour montrer à quel point il aimait les hommes et les femmes, quand bien même ils sont dans le péché, et il est allé jusqu'à la croix pour cela, pour que notre péché soit vaincu une fois pour toutes à la croix du calvaire. Il est mort sur cette croix. Et c'est loin d'une mort dans des conditions royales qu'il est mort. Il est mort dans des conditions les plus basses possibles, considéré comme un malfaiteur, comme un criminel. Il n'a pas été pleuré. Il a été placé pourtant dans un tombeau de riches. Encore un petit signe qui montrait quelque part qu'il y avait de la richesse dans cet homme. Mais personne n'a su le voir. Il est mort comme un criminel entouré de deux brigands. Il était en train de donner sa vie pour vous et pour moi. Il est venu pour cela. Je dirais, en ce moment même, qui reconnaît la voix de Dieu à travers cette simple prédication ? Qui reconnaît une voix de Dieu ? Entends-tu la voix du Seigneur qui t'appelle cet après-midi encore par son humble serviteur ? Il faut reconnaître ces choses. C'est des choses cachées. Le Seigneur aimerait te dire que si tu l'acceptes dans ton cœur, si tu crois ces simples choses, qu'il est venu sur la terre pour le pardon de tes péchés, tu peux t'approcher de lui avec un cœur sincère et droit, repentant, et lui demander qu'il puisse se révéler à ton cœur. C'est possible, parce que c'est bien le roi des cieux. Et en ce moment même, peut-être qu'il frappe à la porte. Il est écrit dans l'Apocalypse, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Cet après-midi, encore une fois, il frappe à votre porte. On pourrait se poser la question, pourquoi Dieu a-t-il voulu qu'il en soit ainsi ? Pourquoi Jésus, le Fils de Dieu, il fallait qu'il vienne de cette manière. Et c'est très important de le comprendre. Et pour qu'on puisse bien le comprendre, je vais vous donner un exemple. Si vous gagnez au loto, vous allez avoir plein d'amis. C'est aussi simple que ça. Mais si vous vous retrouvez du jour au lendemain à la rue, vous compterez vos amis sur les doigts d'une main. Donc alors que vous avez plein d'amis, parce que vous avez des millions en poche, lesquels sont des vrais amis ? Lesquels vous aiment vraiment ? Est-ce qu'ils vous aiment pour qui vous êtes ? Ou est-ce qu'ils vous aiment pour ce que vous avez ? Et éventuellement pour ce que vous pourriez donner ? C'est pour cela que le Seigneur est venu dans cette condition la première fois. Parce que s'il y en a bien un qui est riche, c'est Dieu. Seulement, il fallait, et Dieu le voulait de cette manière, il voulait être sûr que ceux qui le choisissent ne le choisissent pas pour ce qu'il donne, mais pour ce qu'il est. Alors le Seigneur s'est révélé dans un état de pauvreté. Il a quand même laissé des signes, parce qu'un roi, il faut qu'il soit annoncé, comme je le disais. Le Seigneur est venu pour que nous puissions le choisir, non par la contrainte, devant l'évidence que c'est bien Dieu qui est parmi nous. Parce que dans ce cas-là, où est le choix ? Nous en avons la preuve. Il faut que notre choix provienne d'un amour vrai et sincère, d'une attitude de cœur qui vise à rechercher Dieu. Et pour que cela puisse se faire, il fallait bien que le Seigneur apparaisse dans un état de faiblesse. Il fallait bien qu'il apparaisse pauvre. Il fallait bien qu'il y ait un éclat qui n'avait rien d'attirant. Parce que celui qui le choisit alors qu'il est comme ça, forcément, il l'aimera alors qu'il aura sa gloire. Vous ne croyez pas ? L'inverse n'est pas vrai. Le seul moyen pour Dieu de savoir qu'il aimait vraiment pour ce qu'il est et non pour ce qu'il donne, c'était bien que le Seigneur vienne parmi nous une première fois dans un état de faiblesse, dans un déguisement. Il était incarné. Il était comme nous, comme vous et moi. Il était dans la chair d'un homme, dans un corps semblable au nôtre. Mais lui n'a pas commis de péché, parce qu'il est Dieu. C'est pour ça qu'il est venu ainsi. Parce que celui qui le reçoit, qui reçoit ce roi-là, ce roi qui est venu discrètement, ce roi qui est venu sans faire de bruit, ce roi qui est venu alors qu'il était méprisé de tous, celui-là même qui fait le choix de dire « Eh bien, vous, vous le rejetez, eh bien, moi, je vais l'accepter. » Eh bien, ça touche le cœur de Dieu. Vraiment, ça touche le cœur de Dieu. Parce qu'alors qu'il est venu dans cette discrétion, on aura eu ce regard qui a su voir, on aura eu cette recherche intérieure qui, vraiment, qui attendait. Cet après-midi, qui attend vraiment de rencontrer Dieu ? Qui attend de recevoir cette parole ? Laissez-moi vous dire que la deuxième venue du Seigneur, c'est pas tout à fait pareil. Quand il reviendra, ce ne sera pas pour donner sa vie à nouveau. Quand il reviendra, autant la première fois il est venu en toute discrétion, que la deuxième fois, personne ne pourra nier qui il est. Personne. Quand il reviendra d'une manière éclatante. Et il sera annoncé, non par des petits, mais par des événements, par des personnes qui ont une dimension divine, parce qu'il sera annoncé dans toute sa gloire. Et ici, on va lire un passage, même deux, où on évoque justement la venue du Seigneur la deuxième fois. Apocalypse, chapitre 1er. En passant, je vous invite à réfléchir sur celui qui a écrit ces choses à l'époque où il vivait. Ça semble de la folie d'écrire de telles paroles à cette époque. Et pourtant, aujourd'hui, on ne peut que constater à quel point c'est possible. Apocalypse, chapitre 1er, verset 7. « Voici qu'il vient avec les nuées, tout homme le verra, même ceux qui l'ont percé. » Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. Oui et Amen. Tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé, tout œil le verra. Ça veut dire que les gens, ils vont ressusciter pour constater que oui, c'était bien lui. Et ils l'ont crucifié. Un deuxième texte qui nous montre à quel point même les éléments vont trembler à sa venue. Zacharie, chapitre 14. Zacharie, c'est dans les derniers livres de l'Ancien, donc vous allez au Nouveau, puis vous remontez les pages. Zacharie, chapitre 14, verset 4. Si ce n'est pas une arrivée en grande pompe, depuis le ciel, parmi les nuages, et j'imagine, en général, quand de lourds nuages s'accumulent, en général, ça flash de partout. Et je l'imagine, ça, ce n'est pas écrit. Mais je l'imagine facilement. Le tonnerre qu'on compare dans la parole à la voix de Dieu, les éclairs qui flashent un peu partout, et au moment où il va revenir, ses pieds se placeront en ce jour-là sur le mont des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem. Du côté de l'Orient, le mont des Oliviers se fendra par le milieu vers l'est et vers l'ouest en une très grande vallée. Une très grande vallée. Il va juste poser la plante de son pied. Vous savez, quand on marche dans le sable, vous savez ce qui se passe ? Quand on pose le pied, ça s'écarte. On a là juste une petite image de ce que c'est que quand Jésus va poser son pied sur la terre. Pour lui, c'est comme du sable. Ça s'écarte sous son passage. Quand il va revenir, ce sera plein de gloire. Ce sera plein de majesté. Il va y avoir du bruit, laissez-moi vous le dire. Mais il revient pour juger et pour installer son règne. Ainsi, peut-être que des personnes qui disent « Mais alors, si Dieu existe, pourquoi il n'impose pas la paix dans le monde ?» Eh bien, ça va être le cas. Et vous savez ce que dit la parole de Dieu ? C'est que quand bien même la paix va être instaurée et imposée pendant 1000 ans, à la fin, les hommes choisiront quand même de se rebeller contre Dieu. Parce que la nature de l'homme, elle est ainsi faite. Elle est conçue dans le péché. Vous et moi, nous sommes pécheurs devant Dieu. Et vous et moi, nous n'avons pas accès à la vie du ciel. Nous n'avons pas accès à la présence de Dieu. Parce que ce corps-là nous en empêche. Le péché qui est en nous nous en empêche. Et il nous faut décider, dans notre cœur, de faire le point vraiment sur ce qu'il y a à l'intérieur. Et de réfléchir d'une manière très sérieuse au Seigneur Jésus, sur cette première venue, ce message que je vous donne simplement, une venue discrète. Là, ça ne fait pas de bruit, il ne va pas y avoir de miracle cet après-midi. On va repartir, tout semblera comme quand vous êtes rentrés, mais à l'intérieur. Moi, j'imagine quand même que le Saint-Esprit travaille. Une venue discrète. Néanmoins, nous sommes amenés à nous positionner par rapport à ce Seigneur-là. Pas celui qui va revenir la deuxième fois, mais celui qui est venu la première fois dans toute sa discrétion. Parce que celui qui l'a accepté dans son cœur, celui qui l'a reçu, il a une autre destination. Il ne connaîtra pas cette deuxième venue. Ou alors si, mais il fera partie de ceux qui reviendront avec lui. Pourquoi ? Parce que ceux qui ont accepté le Seigneur de tout leur cœur, alors qu'il avait un aspect méprisable, alors qu'il avait un aspect négligeable, alors que peut-être la parole qui est annoncée semble sans effet, c'est tout simple. C'est justement là. Il y a un trésor caché dans un vase de terre. Vous voyez le vase de terre, vous ne vous doutez pas qu'à l'intérieur, il y a des pièces d'or. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer cet après-midi. C'est tout simple, c'est tout dans la discrétion. C'est semblable à la première venue du Seigneur. Et pourtant, il vous appartient d'y réfléchir. Pour savoir si oui ou non, vous voulez avoir l'espoir que Dieu veut vous donner. Cet espoir qui fait que le chrétien, il a une assurance à l'intérieur parce qu'il s'est réconcilié avec Dieu. Il sait dans son cœur qu'il est réconcilié. Il sait, il a reçu la paix de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il a demandé pardon. Et il sait que dans ces temps, en ce moment même, on sait que le Seigneur est à la porte et qu'il est sur le point de revenir chercher ceux qui l'auront choisi dans l'aspect qu'il avait dans sa première venue. Ceux qui l'auront vraiment choisi par amour. Vraiment. Et quand on choisit quelqu'un par amour, en général, on se comporte de telle manière qu'on désire lui être agréable. Quand on aime quelqu'un, on veut lui être agréable. N'est-ce pas normal ? Comment quelqu'un qui accepterait le Seigneur dans son cœur choisirait simplement de faire peut-être comme des fois certaines maladresses où on va dire « Papa, tu sais que je t'aime ?» T'as pas 100 euros à me prêter? Nous, c'est comme ça qu'il y a, malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça aujourd'hui. C'est pas de l'amour, ça. C'est pas de l'amour. Le vrai amour, c'est celui qui choisit dans son cœur d'aimer et d'avoir une vie qui plaise à celui qu'il aime, même s'il ne devait rien avoir du tout. Un amour désintéressé. Et c'est ce que le Seigneur a eu dans son cœur à notre égard. Parce que combien de personnes vont refuser le Seigneur? Ils sont beaucoup quand même. On aimerait, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, mais il sait aussi que tous les hommes ne seront pas sauvés. Ceux qui l'auront choisi, pas seulement ceux qui se sont répentis, mais ceux vraiment qui s'appliquent dans leur vie de tous les jours à se préparer à son retour. Ceux qui choisissent de faire le ménage dans leur vie, ceux qui choisissent d'avoir une vie qui est agréable à Dieu, ils auront part à un événement tout particulier qui s'appelle l'enlèvement des chrétiens. Un jour, le Seigneur reviendra chercher ceux qu'il aime pour leur épargner des temps de souffrance, pour leur épargner le jugement de Dieu qui va tomber sur la terre et sur les hommes. Et il voudra, parce qu'il aura vu ceux et celles qui l'auront choisi par amour, ceux et celles qui auront choisi de vraiment faire de leur vie quelque chose qui plaît à Dieu. Ceux-là seront enlevés, seront pris par le Seigneur, ils seront changés, ils auront un corps nouveau, ils seront auprès de lui en sécurité, pendant que le jugement de Dieu va tomber sur la terre. Et ce jugement de Dieu n'est ni plus ni moins qu'une annonce aussi de l'arrivée de la seconde venue de Jésus. Parce qu'il revient avec fracas. Il va y avoir des tas de choses qui vont se passer, que ce soit au niveau de l'économie, que ce soit au niveau, on le voit même déjà aujourd'hui, que des échantillons aujourd'hui. Mais on voit comment le climat est déréglé. Ça sera une autre musique quand l'Église sera enlevée. Parce que le jugement de Dieu va tomber. Et je ne peux pas ne pas en parler. Parce que le jugement peut nous être épargné. Il suffit de savoir. Est-ce que vous voulez voir effectivement ce Dieu qui vient avec fracas? Mais dans ce cas-là, laissez-moi vous dire que ça va être difficile de vivre les moments de son annonce, entre guillemets. Il vaut mieux se préparer dans son cœur dès maintenant et être mis à l'abri par le Seigneur lui-même pendant ces temps difficiles, plutôt que de prendre le risque de mépriser Dieu aujourd'hui, quitte à devoir supporter ce qui va venir sur la terre. Le Seigneur a dit que, alors que toutes les choses que nous voyons aujourd'hui seront là, cette génération ne passera pas. On ne peut que constater que les prophéties qui ont été données au sujet du retour du Seigneur, elles sont là. Et on a beaucoup d'indicateurs qui, aujourd'hui, sont tous au vert. Le Seigneur peut revenir d'une minute à l'autre. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que dans ta vie, tu as pris cette décision de suivre le Seigneur et de prendre le parti d'être de ceux qu'il protégera, parce que dans cette venue en toute discrétion, tu auras su reconnaître le bras de Dieu. Je vais juste terminer cette prédication avec deux lectures en reprenant celle que j'ai prise en ouverture dans Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Cet après-midi, qui y croit et qui n'y croit pas? Celui qui y croit, il va falloir qu'il fasse plus que d'accepter dans sa tête ce qui vient d'être dit. Mais il va falloir qu'il mette en pratique ce qu'il a reçu. À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Je repose la question. Est-ce que dans votre cœur, vous sentez ou vous avez réalisé par la grâce de Dieu que le Seigneur est bienvenu et qu'il fallait vous décider aujourd'hui. Le problème, c'est que si tu résistes, si tu tardes ce moment où tu vas décider de tout ton cœur de mettre ta vie en règle avec Dieu, tu endurcis ton cœur. Tu entends des messages, tu entends des prédications, mais à force de ne pas réagir, tu t'endurcis. Et alors que tu t'endurcis, tu deviendras de plus en plus sourd à ces paroles, alors que le Seigneur n'a pas d'autre désir que de te mettre en sécurité. Le Seigneur aime tous les hommes et il veut que tous soient sauvés. Simplement, il nous aime trop pour nous forcer à choisir. Il nous aime trop pour cela. Il veut que nous le choisissions. Et c'est pour cela même que le Seigneur est venu une première fois dans un état de faiblesse, pour qu'on puisse réaliser que c'est par amour qu'il est venu, et c'est par amour que nous le choisirons, pas autrement. J'aimerais qu'on puisse se recueillir quelques instants. Je ne vais pas faire d'appel. J'aimerais juste prendre un temps de réflexion. Dans le silence, le Seigneur est venu deux fois. Il vient deux fois sur la terre. La première, il est venu plein de douceur, de manière à ce que chacun puisse vraiment réfléchir. Seuls ceux qui cherchaient Dieu reconnaîtront que c'est bien lui, le Seigneur de gloire, qui est venu. Seuls ceux qui cherchent Dieu. La deuxième fois, il y aura de l'évidence, mais vaut mieux pas être sur la terre au moment où le Seigneur reviendra la deuxième fois. Maintenant, il nous appartient à chacun de savoir aujourd'hui ce que nous faisons de nos vies. Est-ce que, dans mon cœur, je veux dire, ça suffit maintenant de jouer. Ça suffit de dire qu'à l'église, je veux suivre Dieu, et puis dès que je sors de l'église, ma vie de tous les jours reprend et c'est reparti, comme en 40. Et je continue à faire des choses vraiment qui déplaisent à Dieu. Dieu le voit, ça. Et Dieu est bien attristé, même s'il est encore prêt à vous pardonner. Il est encore prêt à vous pardonner. Et ne croyez pas ce mensonge qui dira que vous êtes allé trop loin. Ça, c'est le diable. Mais néanmoins, cette mauvaise attitude l'attriste profondément. Et si le Seigneur revient chercher les siens, alors qu'une fois de plus vous êtes dans cette pratique, dans ce mépris de Dieu, malheureusement, vous ne pourrez pas faire partie de ceux qui seront pris et mis sous la protection de Dieu. J'aimerais juste que vous puissiez y réfléchir de tout votre cœur. Et peut-être, là maintenant, décider au fond de votre cœur, ça suffit avec ce comportement double. Seigneur, oui, tu es venu pour moi parce que tu m'aimais. Tu es venu ainsi, dans cet état de faiblesse, parce que tu voulais que je puisse te choisir par amour et pas pour ce que tu donnes. Seigneur, c'est toi que je veux aimer et pas ce que tu donnes. C'est toi que je veux aimer parce que toi, tu as fait la même chose. Tu m'as aimé alors que moi, je ne t'aimais pas. Seigneur, je réalise ces choses. Je te demande pardon pour mon mauvais comportement jusqu'à aujourd'hui. Je veux décider dorénavant de mettre ma vie en règle avec toi. Seigneur Jésus. Cette prière, elle peut monter de votre cœur. Vous pouvez la faire de tout votre cœur. Il n'appartient qu'à vous de vous décider une fois pour toutes à suivre le Seigneur et d'en arrêter avec la pratique du péché. Je vais prier. Seigneur Jésus, je te remercie, parce que oui, c'est en toute simplicité que tu es venu la première fois. Et nous te rendons grâce pour cela, parce que oui, tu ne nous as pas forcés. Et vraiment, la relation qui nous unit est une relation d'amour grâce au fait que tu sois venu dans ces conditions. Merci Seigneur pour ton amour, pour ce tact que tu avais de te rendre si bas, de te mettre si bas pour que nous puissions faire le choix de t'aimer pour qui tu es. Alors que nous ne sommes pas devant cette évidence que tu existes, nous ne sommes pas devant la preuve que tu existes, mais nous pouvons néanmoins faire ce choix que d'accepter par la foi les paroles qui sont écrites dans la Bible pour faire le choix de te suivre. Merci Seigneur pour ces paroles que tu nous as laissées. Merci Seigneur Jésus pour ta présence qui nous est attestée encore une fois dans ta parole. Oui Seigneur, nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour la paix que tu donnes à celui qui s'engage pour toi. Merci Seigneur, parce qu'à celui qui s'est engagé, il a aussi l'occasion de faire une expérience qu'il ne pourra expliquer à personne, que personne peut-être ne pourra comprendre, hormis ceux qui t'appartiennent. Merci Seigneur pour ton esprit, ta présence qui est là en nous, qui est là dans le cœur de celui qui te choisit. Merci Seigneur, parce qu'après ce choix, Seigneur, tu te révèles vraiment, quand bien même tu n'es pas encore revenu. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour que personne cet après-midi ne s'endurcisse davantage. Je te prie, Seigneur, pour que dans les cœurs, il y ait vraiment cette question, ce questionnement, cette réflexion profonde de savoir que le cœur s'endurcit et que tu reviens très bientôt chercher ceux qui t'appartiennent pour les protéger de ce qui va arriver. Merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour la paix que tu donnes à tous ceux qui t'appartiennent. Quand bien ils voient des choses terribles en ce moment, ils gardent la paix qui nous vient de toi parce qu'ils savent que tu reviendras les chercher. Merci pour cette assurance, cette paix, cette joie que personne ne pourra enlever. Nous te rendons grâce. Merci pour ce moment. Gloire à ton nom Seigneur. Amen.